Imaginez l'architecture d'un réseau informatique, disons au tout début des années 2000. C'était super cloisonné.
Très prévisible, ouais.
Voilà, prévisible. Un serveur tombait en panne dans une entreprise, l'écran affichait une erreur locale, on remplaçait le petit composant défectueux, et bam, le système repartait comme si de rien n'était.
La bonne vieille relation de cause à effet bien linéaire. On pouvait isoler un problème sans que toute la structure ne s'effondre.
C'est ça. Sauf que quand on regarde la mécanique mondiale en cette fin d'année 2026, cette linéarité, elle a complètement disparu.
Ah bah, elle n'existe plus du tout.
On n'est plus face à des ordis isolés, hein. On est face à une infrastructure globale qui est tellement interconnectée qu'un genre, un simple petit bug informationnel à un bout de la planète peut paralyser une économie entière de l'autre côté.
C'est l'effet papillon, mais version numérique et instantanée.
Exactement. Et du coup, comment une nation ou même une société civile au sens large fait pour ne pas s'effondrer quand l'imprévisibilité devient la norme absolue?
C'est vraiment la grande question de notre époque.
Et c'est justement la mission de notre décryptage d'aujourd'hui. On va plonger dans le numéro 138 du magazine marocain L'Odjé à Youik, l'édition de septembre 2026. On va déballer tout ça pour comprendre comment on s'adapte à ce chaos.
Parce que le fil conducteur de tous ces articles, qu'on parle de politique marocaine ou des lignes de front en Ukraine, c'est la recherche de résilience.
La fameuse résilience.
Ouais, mais attention, le concept a beaucoup évolué. Historiquement, la résilience, c'était la capacité à encaisser un énorme choc et à revenir à son état initial.
Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'état initial auquel revenir, non?
Bah, c'est exactement ce que révèlent ces sources. Il s'agit plus de revenir à la normale, puisqu'il n'y a plus de normale. Il faut créer de la profondeur, de la redondance dans le système.
Pour absorber des crises qui se superposent sans arrêt. C'est fascinant. On va d'ailleurs demander à ceux qui nous écoutent de garder en tête qu'on va aborder des sujets politiques de façon purement neutre. Hein. C'est pour l'analyse.
Tout à fait. On regarde vraiment la mécanique des choses.
Et justement, pour comprendre comment on programme cette nouvelle forme de résilience, il faut regarder le code source. Les décideurs essaient de mettre en place des plans d'action massifs, comme le programme électoral 2026-2031 du parti de l'Istiklal.
Une déformation historique au Maroc, oui.
Sur le papier, le rapport décrit une architecture énorme. On parle de 99 mesures réparties sur 5 grands axes.
C'est très dense.
Ouais, il y a la famille et les valeurs, la lutte contre la corruption et la rente, le pouvoir d'achat, le service public et bien sûr la souveraineté stratégique.
Et ce qui est intéressant, ce qui retient vraiment l'attention ici, c'est pas le volume de mesures en soi, c'est la mécanique interne du programme. La souveraineté, c'est plus juste un slogan diplomatique.
C'est devenu quoi alors?
C'est abordé comme une ingénierie de survie face à un marché mondial qui est défaillant. On veut muscler l'intérieur.
Pour illustrer ça, le document cite une proposition assez radicale. Ils veulent instaurer le principe selon lequel le silence de l'administration vaut accord.
C'est énorme ça.
Au premier abord, on se dit, bah ok, c'est juste de la simplification bureaucratique. Mais en fait, c'est un renversement total de la charge de la preuve.
Ah oui, c'est une révolution culturelle pour l'État. Normalement, c'est le citoyen ou l'entrepreneur qui subit l'attente. Si l'administration ne dit rien, votre projet est gelé.
Vous attendez indéfiniment.
Voilà. En inversant cette logique, on force le système public à devenir proactif. Et s'il ne l'est pas, ben, l'économie avance quand même sans lui.
Parce que, dans un monde instable, la vitesse d'une entreprise locale, ça devient plus important que le contrôle de l'État.
Exactement. Et le programme va encore plus loin dans cette volonté de bétonner l'économie locale.
Ah oui, la taxe sur les monopoles. J'ai bloqué sur ce chiffre en lisant. Il propose de taxer à 40% les entreprises en situation de monopole.
40%, oui.
C'est colossal, non? Je veux dire, on pourrait faire fuir les grands conglomérats qui apportent beaucoup de capitaux.
C'est un pari super audacieux, c'est clair. Mais il faut voir ça à travers le prisme de la vulnérabilité dont on parlait.
C'est-à-dire?
Un monopole, par définition, c'est un point de défaillance unique. C'est comme le serveur informatique du début. Si cette entreprise géante vacille à cause d'une rupture de chaîne d'approvisionnement mondiale, par exemple, tout le secteur s'effondre.
Ah, je vois. C'est l'idée du gestionnaire de portefeuille financier. On ne cherche plus seulement la croissance maximale, on diversifie pour survivre au crash.
Exactement. Taxer l'hyperconcentration, ça force la fragmentation du marché. On préfère avoir 10 entreprises moyennes plutôt qu'un seul mastodonte. Un tissu de PME, ça absorbe beaucoup mieux un choc.
La logique de redondance, toujours. D'ailleurs, il vise aussi 30% de valeur locale dans les marchés publics et carrément 50% de contenu local dans l'énergie d'ici 2031.
On referme les écoutilles sur les secteurs critiques, ouais.
Mais là où j'étais vraiment surprise, c'est comment cette logique s'applique aussi à la sphère privée, à la famille.
C'est peut-être la partie la plus intéressante du changement de paradigme.
Il propose une aide directe de 5000 dirhams pour les jeunes qui se marient. Et honnêtement, avec l'inflation actuelle et le prix de l'immobilier en 2026, 5000 dirhams, c'est pas un peu dérisoire? C'est presque purement symbolique, non?
Financièrement, oui. On va pas se mentir. C'est pas ça qui va changer le budget d'une vie.
Ouais, voilà.
Mais l'intention stratégique derrière, elle est ailleurs. Ce parti a un ADN très conservateur. Et il cherche à repositionner la famille. Pas juste comme une valeur morale, mais vraiment comme le premier filet de sécurité économique du pays.
Le premier amortisseur avant que les crânes doivent intervenir?
Précisément. Quand une crise frappe, que ce soit une nouvelle pandémie ou une crise financière, l'État-providence est très vite à court d'argent. Donc la famille élargie, c'est la cellule de solidarité de base.
Donc même avec une petite somme, c'est un investissement dans ce que vous appelez la micro-résilience sociale.
C'est ça. Et l'élargissement de cette protection familiale s'est allé assez loin. Le programme propose de reconnaître l'addiction comme une maladie chronique.
Et d'intégrer les psychologues dans l'assurance maladie, oui. Ce qui était impensable avant. La santé mentale, on la voyait souvent comme un luxe ou un truc invisible.
Totalement. L'intégrer dans le système de santé publique, ça montre qu'il considère la résilience psychologique aussi vitale que l'énergie.
Un corps social qui va mal mentalement, ça produit plus, ça n'innove plus, et surtout c'est vulnérable aux manipulations externes.
C'est une vision très pragmatique de la sécurité humaine.
Et ce qui est troublant dans les sources, c'est qu'on voit que le Maroc n'attend pas les élections pour muter. Les données montrent que le pays se recable déjà de l'intérieur.
Surtout sur le plan de l'inclusion, oui.
Ah, les chiffres du secrétariat d'État chargé de l'inclusion sociale sont frappants. Le budget est passé de 203 millions de dirhams en 2020 à 500 millions en 2025.
Une augmentation énorme.
Plus de 160%, oui. Et ça donne 70 000 élèves intégrés et presque 1000 recrutements publics pour des personnes en situation de handicap. Comment on explique un bond pareil en si peu de temps?
En fait, c'est un changement philosophique profond. Pendant très longtemps, le handicap s'était vu sous l'angle de la charité.
On donnait des aides pour soulager sa conscience, en gros.
C'est un peu ça, ouais. Mais là, passer à 500 millions, ça veut dire qu'on bascule vers une politique de droits fondamentaux. L'objectif, c'est plus d'assister, c'est de rendre autonome.
Si je file ma métaphore de l'ordi, c'est comme si on avait des millions d'utilisateurs qui étaient en veille prolongée à cause d'obstacles physiques. Et là, on investit pour les brancher au réseau.
Exactement. On augmente la puissance de calcul de toute la société. Par contre, il y a un corollaire à ça.
Lequel?
Si vous rajoutez plein de processeurs à un système, il faut que la grille électrique, donc l'économie globale, tienne le coup pour fournir des opportunités.
Ce qui nous amène direct au tourisme, qui est un des gros piliers de cette grille au Maroc. Les chiffres du premier semestre 2026 sont excellents. 9,4 millions de visiteurs.
Et presque 65 milliards de dirhams de recettes.
Ouais! Mais au-delà des zéros, c'est la géographie de ce tourisme qui est fascinante. Les pôles de croissance ne sont plus ce qu'on croit.
Marrakech et Agadir ne sont plus les seuls moteurs, en effet.
Exactement. La plus forte dynamique, c'est Ouarzazate, avec plus 23% de nuitées, et Rabat, avec plus 20%. Ouarzazate, c'était surtout connu pour ses studios de cinéma et la Porte du Désert. C'était une niche, non?
C'était une niche, oui. Et ce rééquilibrage, c'est la preuve que cette stratégie de résilience s'applique aussi au territoire.
Donc on élargit la carte mère sur le plan géographique aussi.
C'est ça. Si l'économie dépend juste de Marrakech et qu'il y a un séisme ou une grosse crise là-bas, c'est tout le PIB qui trinque.
En décentralisant vers Rabat ou Ouarzazate, on répartit les risques?
Tout à fait. Si un nœud du réseau bloque, les revenus dévient naturellement vers les autres nœuds. C'est une vraie stratégie de blindage.
Et franchement, à la lecture de l'IWIC, on pige vite pourquoi ce blindage interne est absolument vital. Parce qu'à l'extérieur, c'est le chaos total.
La notion même de frontière est en train de s'effondrer.
Les frontières physiques et informationnelles. Regardez la crise à Septa. L'enclave a connu des trucs ahurissants cet été-là.
Les chiffres de juillet 2026 sont terrifiants.
Plus de 72 000 passages ou tentatives irrégulières. 72 000, c'est la population d'une ville moyenne qui pousse sur un grillage.
Et tout de suite, la désinformation a pris le relais.
Ah bah, directement. Des rumeurs accusaient le Maroc d'avoir ouvert les vannes pour faire pression. Mais le magazine cite un démenti formel de la police espagnole elle-même.
Oui, Madrid a contredit ces rumeurs.
Et le Premier ministre espagnol a publiquement pointé des réseaux de désinformation russes et d'extrême droite. Le problème, c'est que sur le terrain, le mal est fait. C'est un drame social.
Le tissu social n'a pas tenu.
Il y a eu 23 agressions sexuelles signalées, dont des viols sur des mineurs. Les habitants locaux ont manifesté, excédés. Une vraie poudrière.
Et c'est là qu'on voit que l'effacement des frontières est réel. Un mouvement migratoire a été transformé en arme de destruction massive par l'information.
On n'essaye plus d'attaquer frontalement, on pirate les émotions, on détruit la cohésion sociale de l'intérieur.
C'est le concept de profondeur stratégique. L'assaillant est invisible, ça lui coûte rien, mais les dommages chez la cible sont colossaux.
C'est la même mécanique virale qu'on retrouve en Ukraine, non? Même si là, c'est militaire. Le magazine détaille la situation sur le front en août.
Oui, où la guerre de position est presque un leurre.
Bah, la Russie n'a pris que 90 km² au sol ce mois-là. On se croirait dans une impasse. Mais dans le ciel?
Dans le ciel, c'est une autre dimension.
La Russie a lancé 218 drones en une seule nuit. Et attention, ce ne sont plus les vieux modèles à hélice, les Shahed qui faisaient un bruit de tondeuse. Ce sont des drones à réaction.
Et ça, ça change tout, sur le plan mathématique.
Les taux d'interception ukrainiens sont passés de 95% à 60%. C'est énorme comme chute.
C'est parce que le temps de réaction est drastiquement compressé. Avant, un opérateur anti-aérien avait quelques minutes pour cibler. Avec un moteur à réaction, ça se compte en secondes.
La physique même de la défense a changé. On contourne la ligne de front pour frapper les infrastructures vitales dans la profondeur. Comme avec les fausses infos à SEPTA.
C'est exactement la même philosophie, ouais. On attaque le système nerveux.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette vitesse, on la retrouve partout. Même dans les faits divers.
Ah, l'affaire Badr Hari, oui.
Voilà. Le dossier mentionne l'arrestation du kickboxeur Badr Hari à Amsterdam. Dès que ça fuite, bam, les réseaux sociaux s'emballent. On parle de violence, de trucs horribles.
La machine s'emballe en quelques minutes.
Et puis on lit la déclaration de son avocat, Sem Polat. Et là, le décalage est abyssal. Il explique que c'est juste un litige familial lié au divorce, sans aucune violence physique, et que Badr Hari s'est présenté lui-même à la police.
Ce qui soulève un point majeur sur notre époque. La patience face à l'établissement des faits, ça n'existe plus.
On exige un verdict direct.
C'est ça. La justice demande du temps, de l'analyse, des preuves. Mais sur les réseaux, le tribunal populaire juge en temps réel.
Et ce vide entre l'événement et la vérité, c'est là que la désinformation s'infiltre.
Si on n'a pas la patience d'attendre 24 heures pour un sportif, imaginez face à une vidéo truquée sur des migrants à SEPTA ou une attaque en Ukraine. Le biais de confirmation est instantané.
C'est assez vertigineux, en fait. On a d'un côté des pays qui essaient de consolider leurs navires, en finançant l'inclusion sociale, en décentralisant le tourisme, en renforçant les lois.
Pour être plus lourd et résistant face à la tempête.
Ouais. Et de l'autre, des menaces asymétriques hyper fluides. Des drones furtifs, des bots sur les réseaux qui exploitent notre manque de patience.
C'est le grand affrontement entre la structure institutionnelle et des flux immatériels et instantanés.
Ce qui m'amène à une dernière réflexion, qui n'est pas directement la conclusion de l'article, mais qui s'impose. Le parti de l'Istiklal veut créer une filière sur l'intelligence artificielle. En Ukraine, l'IA gère déjà des essaims de drones.
L'IA est partout dans la souveraineté, oui.
Si l'État doit contrôler massivement l'information pour nous protéger des ingérences, qu'est-ce qu'on fait de nos données? Est-ce que le citoyen de demain ne va pas devoir exiger de nouveaux droits de l'homme numérique?
C'est le paradoxe ultime de cette résilience. L'État-providence se transforme en état de surveillance algorithmique pour anticiper les crises.
Une sorte de nouvelle Magna Carta, mais pour sanctuariser nos vies en ligne.
Exactement. Jusqu'ici, on protégeait l'intégrité physique. Mais si la guerre se joue dans nos fils d'actualité et nos données médicales, il faudra des garanties inaliénables. Comment être sûr que ces outils de protection ne serviront pas à écraser la dissidence interne?
La ligne de crête est super fine. Le besoin de sécurité qui finit par dévorer la liberté individuelle. C'est monumental.
C'est un terrain de réflexion absolument crucial pour 2030, ouais.
Et ça montre que comprendre ces dynamiques de Warsazat au drone à réaction, c'est pas juste de l'analyse de salon, c'est comprendre ce qui redessine nos futures libertés.
Le diagnostic est là, mais le traitement reste à inventer.
Voilà. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce décryptage approfondi de l'IWIC. C'était intense. Pour ceux qui nous écoutent, gardez l'œil ouvert, interrogez vos certitudes et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. À la prochaine!